Avoigny. Ce soir encore, Mathieu Conquet rencontre Dick Annegarn. Tout de suite, Folk Talk, le goût du verbe.
Dick Annegarn, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, je vous présente encore, auteur, compositeur, né en Hollande, vous avez vécu en Belgique et surtout en France, même si vous avez beaucoup voyagé, on a eu l'occasion d'en parler. Vous êtes aussi le créateur du Festival du Verbe à Toulouse, mais aussi docteur honoris causa de l'Université de Liège.
Avec Archie Shepp et Robert Royat, voilà, c'est des ingénieurs en alphabet comme moi.
Et Arvo Pärt aussi.
Et Arvo Pärt, musique sérielle, il y avait Anthony Braxton.
Et pourtant les honneurs, j'imagine que vous avez horreur de cela, Dick Annegarn.
Franchement, je suis parti avec un bout d'hermine, mais ils m'ont loué. Non, mais c'était plus intéressant que ça, je ne le savais pas au départ. Quand j'ai vu quand même les autres, j'adore Robert Royat, j'adore Archie Shepp, qui a aussi une démarche folk en fait, hein, Archie Shepp. En tout cas, c'est intéressé aux Berbères. Mais c'est le côté belge aussi. Les Belges, c'est quand même les plus grands auteurs. C'est Hergé en vente, du moins, c'est Hergé et Simenon. C'est les Belges. Et là, vous avez, on a Paul Stromae. Et voilà, je veux dire, c'est la Belgique bâtarde. C'est la Belgique hybride, la Belgique pop, la Belgique qui m'honorait. Donc j'étais très honoré.
Alors votre carrière, Dick Annegarn, elle est difficilement résumable en deux mots ou une chanson, mais en tout cas votre musique, elle s'inscrit dans une veine folk et surtout blues, mais pas le blues 12 mesures. Et là, je voudrais rebondir sur un mot que vous aviez juste avant, sur le côté analphabète. Vous aimez bien les ingénieurs analphabètes. Qui sont-ils pour vous, les ingénieurs analphabètes du blues?
Il y a Ladbelly, Skip James, Muddy Waters, évidemment, c'est des génies. Howlin' Wolf, c'est quand même... J'ai enregistré un album avec Robert Pete Williams, au Théâtre Sartrouville, il n'y avait pas les moyens, donc j'ai eu un ami qui m'a enregistré moi, et moi j'ai enregistré Robert Pete Williams, que j'ai fréquenté pendant quelques jours, et c'était un ferrailleur, d'ailleurs le disque s'appelle Ferraillage, moi j'étais sur la péniche, et lui il ramassait des bagnoles, et c'est extrêmement complexe, je veux dire, on peut être musicien ne sachant pas lire la musique, et avoir des codes, et avoir des systèmes, et avoir une science de la musique transmissible. D'ailleurs, moi j'ai grandi en écoutant Big Bill Brunsey. Et Big Bill Brunsey, quand il arrête de jouer, le rythme continue. Hein, il ne sait pas s'arrêter, en fait. Donc, un peu comme les musiciens berbères. C'est pas des chanteurs qui chantent des chansons. C'est des, comment dire, les Roms aussi. Il y a une espèce de continuité, un tempo, des appuis, des accents, un système mélodique, un système rythmique extrêmement subtil. Et pour moi, franchement, Mozart, c'est Goldman, quoi. C'est ringard. Mozart, je m'ennuie. Au bout de la deuxième note, j'entends déjà la quatrième, même s'il n'est pas encore joué, tout est téléphoné. Le blues a des secrets, le blues a des astuces, a des imprévus, a une vie, pour moi, bien plus palpitante, bien plus étonnante, bien plus rude, bien plus incertaine. La blue note, c'est une note qui n'existe pas. On ne peut pas l'écrire, une blue note. C'est une zone dans laquelle il se passe des choses. C'est en tout cas pour moi un art bien plus subtil que la musique classique qui a souvent puisé chez les paysans. Dvorak, Bartok, Mozart, Bach, ils ont tous piqué les plans aux paysans. Eh ben moi je suis du côté paysan, directement. Je suis un paysan, c'est tout.
Allez, je ne vais pas me lancer dans une défense de Mozart, hein, il se défend tout seul.
Il n'y a pas besoin de moi.
Mais un mot sur y a un musicien que vous avez mentionné, c'est Robert Pete Williams,
oui.
Un musicien de la Louisiane que vous rencontrez, alors vous disiez c'était à Sartrouville en 79, ça donnera le disque Ferraillage. Il faut dire un mot quand même sur cette rencontre. Déjà, comment vous rencontrez cet homme et qu'est-ce que vous savez de lui? Parce qu'il a un parcours très très singulier, Robert Pete Williams.
Comme beaucoup de musiciens, Ladbelly aussi a grandi en prison, on va dire. Et Robert Pete Williams, en tout cas, il a une chanson qui s'appelle « I'm grown so ugly », je suis devenu si affreux. « Baby, this ain't me ». Il s'approche d'un miroir, il dit « c'est pas moi ». En tout cas, c'est des hommes qui ont plusieurs métiers, qui ont plusieurs semaines, d'ailleurs. Jumping Jack Dupree, un jour, il me dit...
Lui était boxeur.
Il était boxeur. Il me dit, mais je l'ai vu à Nozilgrand. Et puis j'étais le voir, il me dit, ça va, vous êtes bien payé, c'est les bonnes conditions. Il jouait dans un gymnase, franchement, c'était des conditions affreuses. Il dit, are you well paid? Il dit, they pay us weekly, very weekly. Ils nous payent à la semaine, à la petite semaine. On lance pierre, quoi, en gros, mal. Et donc, bon, je veux dire, ça fait partie pareil, de leur storytelling. Franchement, j'ai peu chanté depuis qu'on se parle. Mais eux aussi, ils parlaient bien. Entendre un bluesman parler, ça fait partie de ce, ou connaître sa vie. Les vies de ces hommes sont des chefs-d'œuvre, franchement.
Robert Pitt Williams particulièrement, parce que né à Bâton Rouge, il est découvert alors qu'il est en train de purger une peine en prison, qui aurait dû l'emmener, je crois qu'il y avait une condamnation à mort qui l'attendait. Enfin, vraiment, c'est sa musique qui va le sauver.
C'est ça. Lomax et Pete Seeger, surtout Lomax, a sorti des mecs de prison, leur ont aussi payé des avocats pour les défendre un peu mieux, parce que bon, c'était évidemment pas tous coupables. Hein. D'ailleurs, il y a un style quasiment de prisoner song. En tout cas, ce que les Noirs ont quand même de beau et de digne, c'est que, j'allais dire, ils se plaignent jamais. En tout cas, ils parlent pas de racisme. Ils parlent pas de politique. Ils sont beaucoup plus subtils que ça. La poésie noire principalement des bluesmen, mais même les titres de Miles Davis, Bridges Brew, ou les noms des artistes, Duke Ellington, ils se donnaient des noms de noblesse. C'est une mythologie superbe. Duke Ellington, Prince, King Oliver, Count Basie, donc toujours en costume, toujours classe. Les mecs, ils louaient leur guitare tellement qu'ils avaient pas d'argent pour se payer un instrument. Mais par contre, peut-être qu'ils louaient leur costume en tout cas. Mais les bluesmen sont quand même souvent bien habillés, quoi. C'est pas les Rolling Stones, hein. C'est des pauvres qui s'habillent en bourgeois. Les Rolling Stones, c'est des voyous milliardaires qui s'habillent en négligé, on va dire.
En bohème.
Bon, en bohème. Hein, pour dire que il y a une noblesse, dans les vies, dans la mythologie, dans la poésie, érotique, c'est souvent gracieux. On dit jamais cul, on dit jamais des gros mots, remarque, en chanson française non plus, hein.
De façon codée.
Oui, c'est donc chacun ses codes, après tout. Peut-être qu'il y a un blues français. Mais en tout cas, l'amour et la politique, il y a que Big Bill Brunsey, Black, Brown and White, qui a fait quelques allusions à la couleur de la peau, mais sinon, hein, les Noirs étaient définitivement quand même misérables. Pas le droit d'enregistrer des disques. Bessie Smith, the Empress of the Blues, c'était l'impératrice du blues. Elle est morte au bord de la route parce que y avait pas d'hôpitaux pour Noirs à 50 km. Ils se plaignent jamais. C'est pas Marc Augeret, il se plaint beaucoup plus que Muddy Waters. Ou alors Muddy Waters, il se plaint d'avoir un peu mal à la tête le matin ou d'être cocu, mais bon. Enfin bref. J'aime beaucoup la force de l'art africain, quoi.
Est-ce que vous avez fait le voyage dans le sud? Parce que je sais que vous avez enregistré à New York, mais est-ce que vous êtes descendu, alors je ne sais pas, du côté de Muscle Shoals ou en Louisiane, du côté de la Nouvelle-Orléans, ou même à Memphis?
C'est une Afrique complètement imaginée. Je n'ai
Amérique,
peut-être. Oui, une Amérique, mais je veux dire, je m'intéressais aussi au catalogue Lomax ou les Brothers Four, ou Peter Paul and Mary, bon, des gens plus propres, enfin plus blancs, on va dire. Mais oui, l'Amérique en tant que patrie des immigrés, quoi, patrie de multiculturelle, faisait partie d'une école d'adolescents que je me suis fait avec les disques Folkways, avec les Chants du Monde, hein, en France, c'était les Chants du Monde qui avait repris ce catalogue-là. Et donc, je bouffais du Pete Seeger, je bouffais
Woody Guthrie.
Woody Guthrie, pas trop. C'était plutôt, pour dire que franchement, dès qu'il s'agit, c'était comme les hobos, et les hobos, bon, this guitar kills fascists. c'était déjà apparent. Et je trouvais que c'était, ça manquait de subtilité. Je trouvais que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et qu'il valait mieux développer un art propre, un art alternatif, plutôt que, qu'un art revendicatif. Et Woody Guthrie était déjà plus dans, c'est quasiment un chanteur engagé, quand même. Et Pete Seeger aussi, d'ailleurs.
Vous nous avez raconté que vous avez appris, Dickon Hagarn, à jouer de la guitare sur les deux cordes qui restaient sur la guitare de votre grand frère. Qu'est-ce qui vous aura le plus influencé dans votre jeu de guitare?
C'est Big Bill Brunsey, quand même, oui, qui avait un beat terrible, son pouce, c'est très puissant. Et donc ce rebondi, quoi, ce plug, c'est, je veux dire. Donc la guitare, on était obligé d'écouter. Et donc moi, j'ai appris en fermant les yeux et en tapant du pied. D'ailleurs, j'ai mis à peu près 10 ans à arrêter de taper, enfin, de prendre mon pied pour le temps fort. Mon pied, je me suis rendu compte que c'était l'afterbeat. Systématiquement, c'était un moteur d'afterbeat, un moteur pas... C'est, mon pied, il tape pas 1, 2, 3, 4. Et donc, j'ai eu un mal fou à communiquer avec les musiciens. Parce que pour moi, le temps fort, il était ailleurs. Il était du côté des Molly Waters plutôt que de Mozart.
Alors vous demandiez il y a un instant, est-ce qu'il y a un blues français, peut-être que vous participez, Dickon Hagarn, à son élaboration, en tout cas à sa langue, puisque vous avez fait un album qui s'appelait le Folk Talk, oui. Mais c'était des reprises de classiques, des chansons de Rosetta Tharpe, ou des chansons traditionnelles d'ailleurs dont on connaît pas les auteurs, et je sais que vous êtes très attaché à ça, au fait que les chansons préexistent à leur auteur, mais je voudrais revenir à votre rapport à la langue. Vous êtes installé depuis des années à la campagne, dans un petit village de Lafitte-Toupière, c'est en Haute-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux et nous dire comment vous atterrissez dans les petites Pyrénées?
J'ai découvert la Gascogne, en tout cas les Pyrénées de Bagnères-le-Luchon, parce que j'étais en cure. Je faisais une sinusite chronique, j'étais assez malade à 23-24 ans, des bronches, du nez, j'avais la tête gonflée. Et j'avais une sinusite chronique, et donc j'atterris dans une cure de vapeur, de où tout le monde était déjà un peu au purgatoire, enfin une espèce de nuage humide, de soufre. Et surtout dehors, il y a un air dans lequel je vis aujourd'hui. À mon robinet, j'ai de l'eau minérale, j'ai de l'eau qui vient directement des Pyrénées dans mon verre. Je profite de la pureté, on va dire, d'un paysage quasiment chinois, humide et un peu bleu. Je vis dans un poème. Donc j'ai choisi cette région pour sa beauté, pour son soleil, pour son humidité, mais aussi de la tradition troubadouresque, mais bon, les fabuleuses troubadours, en tout cas, ont contribué. Claude Sicre, des fabuleuses troubadours, parle de société poétique, qui est aussi le propre de la société occitane, évidemment, mais de la société des troubadours, et berbères.
Et kurdes.
Et kurdes, exactement. C'est que donc, ces poètes-là sont des poètes qui transmettent, qui sont une radio, qui sont aussi des poètes sonores. Claude Sicre, il chante avec un tambourin. Il chante pas avec un séquenceur ou avec un guitare héros. Non, il chante avec un tambourin. Et ça swing terrible. Cachoula Johnny. Bon. des chansons drôles, politiques, avec des astuces, des espèces de joutes verbales que j'ai découvert à Griot-les-Bains. J'ai découvert Claude Sicre à Griot-les-Bains, mais j'avais déjà rencontré Claude Nougaro à Montreuil. Bon. Je connaissais un peu Mainvielle. Et bon. Toute cette poésie rythmique, voilà.
Et de fait, il y a cette langue qui va rentrer dans votre musique. Récemment, on a pu entendre le sanglier, je pense, Oye, Oye, Tayo, Vaille la Divlo.
Oui, mais c'est des veneurs. Ça, je l'ai étudié ici pendant mes années de chômage. J'ai aussi écrit une chanson paléontologique. J'allais au musée de paléontologie, de botanique, à côté du pont d'Austerlitz, là-bas. C'est des sujets, pendant que je m'ennuyais, j'allais étudier la vénerie, enfin, le langage des chasseurs, les cris des chasseurs. C'est délicieux. Vaille la di, vlo. Donc je suis comme les paysans, j'ai une espèce de dialogue avec la nature qui n'est pas que tendre. Hein, il y a les corbeaux qui puent la mort, c'est un tableau de Van Gogh. Les corbeaux crèvent les yeux des agneaux. Donc je vis dans la dureté aussi. La nature est dure. Dans mon dernier album, je chante ça. La nature, non seulement elle est dure, mais elle ne change pas. Il y a un côté immuable, éternel, et une cruauté éternelle aussi. Le cycle de la vie, de la mort, le gel, le cagnard, tout ça, on est en plein dedans là-bas, en Gascogne. On peut pas échapper à la nature. On fait partie de la nature.
Alors on entend une chanson de Veneur qui rentre dans votre répertoire, mais il y a aussi, vous intéressez aussi, Dick Hanegarn, à collecter, par exemple, les chansons de Boucher. C'est ça ce que vous faites avec la verbothèque?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que cette verbothèque, par exemple? Comment s'organise la visite du visiteur de la verbothèque?
Sans devenir la verbothèque, il y a un an, ça n'existait pas. En fait, si, j'avais nommé une collection d'enregistrements, en effet, de chansons sans auteur, de chansons du domaine public. J'avais appelé ça la verbothèque. D'ailleurs, quand on va sur YouTube, on tape verbothèque, on tombe sur le verbe chanter. Et c'est quand j'ai trouvé une petite maison à 30 000 euros, enfin 70 mètres carrés pour 30 000 euros, je les ai trouvé mes 30 000 euros et j'ai acheté un local. Et après, je me suis dit, mais je pourrais mettre là-dedans, je pourrais enregistrer peut-être là-dedans. Et à vrai dire, là on est à la maison de la poésie, on voit plein de livres sur la poésie. À mon avis, il n'y a personne qui les lit, jamais. Par contre, nous, à la verbothèque, nos livres, c'est sur la parole parlée, sur le spoken word, sur le slam. C'est tous les bouquins que j'ai collectionnés. Bon, ça fait 15 ans que Les Amis du Verbe existent. La verbothèque n'a qu'un an, mais Les Amis du Verbe, 15 ans. Et au commencement, était le verbe, camarade. Au commencement, était le verbe. Ça fait 350 000 ans que nous nous parlons, que nous nous chantons. Donc la verbothèque, c'est la somme, pas des 350 000 ans, parce que ça fait que 5 000 ans qu'on est. Il faut quand même les écrire pour que ce soit dans un livre ou les chanter. Bon, en tout cas, la verbothèque, c'est la somme, d'une part, des livres concernant la chanson, concernant l'oraliture, hein, la littérature orale, et c'est aussi déjà une centaine de chansons enregistrées qu'on a été collectées. Donc on a fait le travail de Lomax, quoi, en fait, en vidéo par contre. Donc sur YouTube, on a les enregistrements qu'on a fait Francophonie de La Rochelle, qu'on a fait à Pézenas, Printival, Bobby Lapointe. On a commencé par un festival Rush, pour dire que c'est des gens qui me donnent les idées aussi. C'est pas moi qui invente ça dans ma tête folle. C'est un besoin. Les gens ont besoin de chanter. N'oubliez pas la parole. On a essayé de supprimer cette émission. Comme c'est revenu comme un élastique. On peut pas supprimer la mémoire des gens. On peut pas les remplacer par un hit parade des choses qu'on voudrait que les gens écoutent. Non, les gens chantent ce qu'ils veulent. Et donc ils chantent ce qui les a précédés, ce qui a été filtré, ce qui a été amélioré, les chansons qui deviennent des solutions idéales, comme on dirait en pataphysique, c'est-à-dire des solutions inoubliables. Salade de fruits, joli, joli. Voilà. On épouse les 70 langues de France, créole, québécois, breton, basque, français moyen, parisien. Toutes les langues de France, on enregistre du moins ce qui est chanté. Parce que ce qui est chanté, c'est un peu organisé quand même. Je veux dire, on fait pas des interviews, franchement. On demande pas aux gens de raconter leur vie dans les 70 langues de France. On leur demande de chanter. Et donc, on a ce que la culture a de meilleur, quand même.
Vous parlez occitan, Dick Hanegarn?
Non. Mais Claude Sicre non plus. Hein. Il le chante, mais il ne le parle pas.
Alors, vous aviez créé le Festival du Verbe en 2003 à Toulouse. Et puis, il y aura une concurrence qui va s'organiser quand le marathon des mots va s'installer du côté toujours de Toulouse. Au départ, il y a une volonté dans ce festival du Verbe, ça va être de graver les plus belles phrases qui seront dites au cours de ce festival, et elles sont gravées sur une stèle, puisque on comprend très bien, voilà, ça, ce sont des mots qui vont rester. Quelles sont les phrases qui vous ont le plus marqué, Dick Hanegarn?
La première, c'est celle qui nous a inspiré, c'est pour dire que je fais des erreurs culturelles terribles. Et donc j'avais vu une pierre avec gravé dessus, passant, considérez mon affliction et voyez s'il y a douleur pareille à la mienne. J'ai dit, mais putain, la puissance de ça quand même. J'étais au bord de la route, un peu derrière les orties, avec dans une stèle ronde, après, en grès du Périgord. On s'aperçut que c'était du faux vieux de 1830, mais dans l'esprit Compostelle. Et donc, Saint-Jacques-de-Compostelle, dans l'esprit pèlerin. Et avec une petite pointe, qu'après je me suis rendu compte que sur la pointe rouillée, je ne sais pas si c'est les socialistes anticléricales qui l'ont enlevé, mais le crucifix a été arraché. Après je me suis rendu compte de la vraie histoire. Mais j'ai pris ça pour un poème qui m'a accompagné pendant ma balade et qui s'est dilué, qui est revenu. Et donc je me suis dit, c'est beau quand même, ça, il devrait y en avoir d'autres. Et donc, de là est partie l'idée des Amis du Verbe. Mais aussi, l'idée des Amis du Verbe, c'est que le village m'a accueilli. Franchement, je suis homosexuel, je suis hollandais, je suis poète. Je n'ai pas vraiment le profil de l'ami du chasseur. Hein. Mais
pourquoi
mais,
pas
exactement.
La
c'est
preuve.
Que, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un café qui est tenu par un couple homosexuel à côté de chez moi qui s'appelle le Chien de Fusil. Bref. En tout cas, ça se passe très bien.
On comprend la métaphore.
La poésie chasseuse. En tout cas, j'étais bien accueilli, super bien accueilli. Et donc, c'est ça aussi qui m'a donné... En tout cas, ça a donné le côté ami, quoi. Hein, on peut être ami avec peut-être plus avec le verbe qu'avec la poésie. Hein, parce que là-bas, c'est vrai que l'occitan et même la langue est fleurie. La langue des gens... de la campagne est naturellement riche et fleurie et avec plein de vocabulaire. Je me suis rendu compte, enfin là-bas j'ai appris qu'on peut être cultivateur et cultivé. C'est des gens qui aiment parler, qui aiment bien dire. C'est pas que la langue régionale typique des chinoisistes, c'est aussi ils empruntent, ils disent ciao, ils disent mail, ils disent je veux dire les paysans sont aussi branchés, c'est pas des idiots quoi, c'est au contraire.
Ils disent kiffer par exemple.
Oui,
ça vient de l'arabe.
Oui, flippé, en tout cas, oui, kiffé peut-être pas. Mais, mais bon, je connais aussi des paysans qui fument le kiff, par contre. Ça, c'est où, qui le boivent en infusion, tiens, c'est plus subtil encore. Ou qui mangent des champignons à l'hallucinogène. Et pas nécessairement des néo-ruraux. Je veux dire, il y a une pénétration de la société moderne dans la campagne qui fait que je suis bien dans mon village et ces chemins. Il y a une chanson, Brahim Alham sur un berbère, il dit « Il aimait ses chemins, il aimait ses gens hein, ». Donc oui, c'est, les chemins font partie des gens. Le paysage est aménagé, est guidé par ceux qui sont là. Donc en effet, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, le troubadour, les églises, la campagne est une écriture, ce sont des traits. Hein, auxquels les Amis du Verbe contribuent, c'était ça mon point de départ, du moins. J'ai beaucoup de respect pour la langue paysanne, du moins, qui m'est venue sur place. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de faire les Amis du Verbe, de faire une verbothèque. Après, c'est des logiques que les gens, ils m'ont dit, oui, mais parler c'est bien, mais manger aussi c'est bien. Et parler en mangeant, c'est encore, ou après manger, ça vient bien, avec un petit coup, hein, ça vient bien. Donc, c'est avec eux que j'ai fait des paillas poétiques, que j'ai fait des soupes au verbicelle, qu'on fait des jeux de mets, où on vient avec des mets, puis on fait des jeux de mots là-dessus. Et donc, le résultat de ces jeux, de ces animations, de ces réjouissances, on les grave sur des stèles en dur ou sur des panneaux translucides le long des chemins. Je m'appelle Josette et j'ai perdu ma chaussette dans la cuvette.
Alors, une question plus triviale, mais ça peut aussi parfois rester gravé dans la mémoire, c'est le bon mot. Ça vous est arrivé parfois de blesser pour le plaisir d'un bon mot, dit Kanegarn ?
Mon frère disait la vérité blesse. Pas plus qu'un autre, je fais attention, j'essaie de courtois, je pratique la poésie et l'amour courtoise, on dit les choses autrement, c'est peut-être tout l'art des joutes verbales aussi, les Belges, les bourgeois c'est comme des cochons, c'est pas, les bourgeois sont des cochons. Le Swansen, le Swans étant une joute verbale brabançonne, en tout cas belge, typiquement bruxelloise, on accule, on engueule sans passer à la violence. C'est juste avant la violence. C'est une certaine brutalité limitée, on va dire. C'est un art dangereux, bien sûr, la joute verbale. Hein. Et d'ailleurs, nous, franchement, c'est pas du grand Cormolade qu'on fait sur la place du Capitole. Hein. C'est trash. Hein. Les jeunes aussi, ils sont en colère. Hein. Donc, à un certain moment, j'ai dû mettre que le verbe, c'est pas la gerbe, hein, parce qu'il y en a qui venaient quand même insulter tout le monde. Mais il y a quand même eu un dictionnaire, enfin, il y a des dictionnaires des injures, il y a des dictionnaires des insultes, ou les brefs de comptoir, qui peuvent être un art subtil aussi. Je veux dire, on peut quand même aller beaucoup plus loin que ce qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on est très policé. Mais nous, en tout cas, sur la place du Capitole, on a une autorisation, on a commencé avec des mégaphones, maintenant on a une prise électrique et bientôt on a des subventions. Bon, parce qu'on pratique un art populaire, c'est tout. Et l'art populaire s'autorégule, n'est pas nécessairement dans l'outrance. Ça peut juste être des suggestions. Moi, on m'appelle Pink Floyd. Quand avec un tracteur, je reste accroché dans un arbre avec mon tracteur et qu'il y en a un qui doit venir me tirer de là, il dit, on va sauver les Pink Floyd de l'accident, quoi. Parce qu'en effet, j'ai fait un accident de tracteur. C'est un gros paysan qui vient en me traitant de Pink Floyd. Franchement, je déteste les Pink Floyd. C'est pas un compliment. J'ai bien compris. Mais c'est drôle en même temps. Ça m'a fait rire. Il m'a insulté, mais ça m'a fait rire. Donc c'est l'élégance, on va dire, du verbe qui fait un peu mal, rectifie un peu les choses. Les Berbères, ils appellent ça Ashushkad Wawal. La parole est juste, Wawal, la parole Ashushkad, juste, mais dans le sens radical. C'est aussi André Azoulay qui m'a appris ça. Il m'a dit, ça aide à la paix sociale. Qu'une parole dit juste, pas qu'elle soit double, pas qu'elle soit élégante, sans contenu. Je veux dire, oui, dans la vie, il ne faut pas s'en faire, mais ça ne dit rien. Hein. Quand on dit, dans la vie, le vit aussi, il faut qu'il vive. Bon, hein. On en atteint quelque chose d'un peu sexuel, d'un peu qui fait comme partie de notre vie. Et on peut rectifier quelque chose qui est trouble. On peut en tout cas assurer la paix sociale à coup de joute verbale. C'est même indispensable. On a viré les musiciens. Et le musicien que j'étais du métro, aujourd'hui, on nous paye pour y retourner.
On en restera là pour aujourd'hui. Merci, Dick Hanegan.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Dick Hanegarn. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Hélène Langlois, réalisation Vincent Deck, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.